Radio France, partenaire des Journées européennes du patrimoine. Les 15 et 16 septembre, le ministère de la Culture et de la Communication vous invite à découvrir les patrimoines cachés. Patrimoine souterrain ou en hauteur, curiosités et salles secrètes, des parcours insolites vous attendent dans 16 000 monuments les 15 et 16 septembre. Retrouvez les Journées européennes du patrimoine sur radiofrance.fr.
Viva l'Opéra! La saison d'opéra filmée reprend au cinéma à partir du 19 septembre avec les Contes d'Hoffmann, Carmen ou Falstaff en direct de l'Opéra Bastille, La Chauve-souris à Vienne, Othello à Salzbourg, La Valkyrie à Milan, le tour des plus grandes scènes lyriques. Toutes les infos sur ugc.fr et francemusique.fr. Un événement France Musique.
Et c'est l'heure sur France Inter de là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet. Bip.
Ouais, salut Daniel, merci pour toutes les émissions en général et particulièrement celle d'hier sur l'entretien avec Cornelius Castoriadis dont j'ignorais l'existence. Moi ça fait 3 ans que j'écoute l'émission, je la trouve vraiment, vraiment bien et c'est assez amusant de voir que ce matin on a eu Madame la patronne des patrons, hein, la présidente du patronat. Le discours était assez intéressant à mettre en parallèle avec l'entretien d'hier. Voilà. Continuez, lâchez rien, et merci encore.
Je comprends pourquoi Bernard Arnault s'est cassé en Belgique. Figurez-vous que la famille Boussac, qui est à l'origine de sa fortune, elle en est réduite pour boucler ses fins de mois à poser des questions au jeu des 1000 euros. Et au jeu des 1000 euros, on n'est pas sûr de gagner l'argent, hein, si le candidat répond. Bon alors, Vincent Boussac, aujourd'hui, qui vit toujours en France, de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, a gagné 30 euros parce que les candidates n'ont pas su répondre à sa question qui concernait le compositeur Francis Poulenc. Bon, c'est du bol, quoi. Mais Bernard Arnault, il n'a pas envie de finir comme ça, quoi. D'envoyer des questions au jeu des 1000 euros. Il faut le comprendre.
Eh bien voilà, la demi-part sur les impôts sur le revenu devrait être supprimée pour les veufs et les veuves. Toutes ces femmes ont travaillé 2 journées dans une et ont élevé leurs enfants. Jusque maintenant, on comptait 1,5 part dans le calcul des impôts sur le revenu. Mais maintenant, c'est peut-être 1 part. Donc, il faut s'attendre à la taxe d'habitation, à la taxe foncière pour 2013. Qu'on se le dise et qu'on s'organise. C'est Nicole de Valleroy de Meurthe-et-Moselle.
Oui, bonsoir, c'est Marie-Claire de la Drôme. Nous venons de voir que la Catalogne, 1,5 million de personnes ont défilé aujourd'hui à Barcelone pour demander l'indépendance de la Catalogne. Affaire à suivre.
Bonjour, c'est Cécile à Sussargues, à côté de Montpellier. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans qui vient de faire sa rentrée à la maternelle. Et quelle mauvaise surprise! Il y a 36 enfants en petite section, 30 en moyenne, 33 en grande section. Dans la classe de ma fille, où ils sont 36, une partie des élèves sont assis par terre car il n'y a pas de place assise pour tout le monde. Pour aller aux toilettes, les petits enfants, c'est 30 minutes minimum pour les changer, etc. Il n'y a quasiment aucun temps disponible pour de l'accompagnement individuel pour tous les enfants. Les plus jeunes et les plus fragiles pleurent et restent dans leur coin toute la journée. Mais qu'est-ce que c'est cette école? Comment peut-on espérer que les enfants apprennent à lire et à écrire correctement? Comment peut-on penser qu'ils vont aimer aller à l'école dans de telles conditions quand ça commence aussi mal alors qu'ils sont tout petits et qu'ils ne comprennent même pas ce qui leur arrive? J'ai l'impression qu'on fabrique l'échec scolaire dès les premières années de maternelle. Alors je suis vraiment très déçue et très très en colère. Voilà. Au revoir.
Une partie de la gauche, dangereusement égarée, aura-t-elle lu l'interview de Joseph Stiglitz dans l'Humanité de ce mardi? Le prix Nobel d'économie dénonce une démocratie au service des plus riches, le pacte budgétaire européen, l'indépendance de la Banque centrale européenne. L'ancien directeur de la Banque mondiale prévient l'austérité est un désastre et conduit à la récession. Les politiques de rigueur conduisent à l'échec. L'ancien conseiller de Bill Clinton conclut « Notre système de marché ne fonctionne pas. » Régis de Nîmes.
Bon, je viens de rédiger à tout hasard une question pour Bernard Arnault. Bernard, si tu m'écoutes, voilà une question que tu peux envoyer au jeu des 1000 euros et qui te rapportera de 15 à 45 euros selon sa classification. Alors, voilà ma question. Enfin, ça sera ta question. Quel est le nom du Premier ministre dont le gouvernement a versé en 1984 à Bernard Arnault 2 milliards de francs, quand même, hein, contre la promesse de ne pas licencier les salariés du groupe Boussac qu'il venait de reprendre? Elle n'est pas trop dure comme question. Contre la promesse de ne pas licencier les salariés du groupe Boussac qu'il, Bernard Arnault, venait de reprendre. Donc ça passera, je pense. Tu t'en souviens, Bernard, du nom du Premier ministre? C'était Fabius. en voilà, on ne sait jamais.
Voilà, merci pour tous ces messages. Chers AMG, je voudrais revenir sur le commentaire sur le livre de Joseph Stiglitz, dont on fait grand cas, à juste titre. Mais enfin, il faut rappeler que ce genre d'argumentaire et de façon de voir les choses n'est pas... récente, si vous lisez le journal dont on parlait hier, Le Monde Diplomatique, depuis des années, dont la Bassigi se fait souvent l'écho, ces idées-là, ils sont depuis fort longtemps agités, et on est un peu toujours un petit peu sceptique devant des propos ou des idées sous prétexte qu'elles viennent des États-Unis qui auraient plus de qualité que celles qui viennent de chez nous. C'est mon petit côté cocorico du jour, mais sans doute qu'il y a dans tout cela quelque chose de l'ordre de la repentance. Quelqu'un qui a été directeur de la Banque mondiale et conseiller de Clinton, enfin c'est, tout ça est bien intéressant, tout comme d'ailleurs le crédit qui est accordé à Paul Krugman actuellement, ou cette mode de revenir sur les années Roosevelt, etc. C'est tout un courant sans doute intéressant, mais sur lequel il faudra prochainement, sans doute, dans la basse si j'y suis, s'interroger. Alors aujourd'hui, bien sûr, on n'a pas pu résister à la tentation d'aller faire un petit tour à Bruxelles. C'est la mode, certains y vont et y retournent, mais il faudrait quand même pas non plus oublier que dans cette histoire, c'est toute la question des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale qui est posée. On a consacré au printemps dernier, avec le livre d'Antoine Payon, deux émissions sur ce sujet. Il faut rappeler quand même que l'évasion fiscale coûte 50 à 80 milliards de pertes fiscales et sociales pour la France. Il est question de créer une commission d'enquête sur l'évasion fiscale, c'est ce que j'ai entendu dire. Eh ben, elle existe déjà, au moins au niveau du Sénat. On avait reçu un sénateur à cette époque-là, M. Bocquet, et on est intéressé aussi de savoir ce que devient cette commission. On va suivre ça à nouveau. Donc aujourd'hui, on part à Bruxelles. Et pour voir un petit peu, pour nos amis riches qui voudraient faire la même chose que certains, il faut quand même savoir comment s'y prendre, comment vous allez vivre là-bas, comment vous serez accueillis, comment ça se passe quoi, dans ce paradis belge. C'est une louche de caviar sous un cornet de frites. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Ce mercredi 12 septembre, le repère d'Abbeville dans la Somme vous propose une conférence-débat animée par Philippe Léger, des économistes atterrés, sur le thème de la crise et du pacte budgétaire. Rendez-vous donc tous et toutes au café Le Crofter, 19 boulevard Vauban à Abbeville.
Ouais, salut à tous. Donc, pour ce qui concerne les repères, on reprendra le dernier vendredi du mois. Le repère, il sera axé sur le Festival du Livre de Montsartou qui aura lieu le premier week-end d'octobre. Et puis, donc, on le fera avec les éditions Agone, avec les bouquins de Ruffin et Fakir. On a contacté aussi, et ils ont dit oui, Max Milo, c'est un éditeur qui avait notamment édité le livre « Gouverné par le chaos » et puis d'autres bouquins. Donc ça se passera le premier week-end d'octobre et on en parle au repère qui est à la fin du mois. Le 16 septembre, c'est dimanche dans 8 jours, on organise la journée du don. C'est comme un vide-grenier, tous les gens connaissent le principe du vide-grenier, sauf que là c'est sans argent. Tu viens pas pour vendre quelque chose, tu viens juste pour le donner. Il y a des choses qui ne servent à rien, que tu as envie de donner, ben, ça peut servir à quelqu'un. Donc ça se passera à Tourette, à côté de Fayence, le dimanche 16 septembre. Et puis pour ce qui est du pistou, ça va, c'est bon, la chambre froide est pleine. Ciao Yves, portez-vous bien.
Bonjour à tous, ici c'est Pascal et Yves et les AMG de Nice. Nice n'est pas seulement un fief des amis de Sarkozy, mais aussi un repère des amis de Mermet et des AMG de toute la France, de toute l'Europe. Demain, mercredi, à la Falabrac Fabrique, 3 rue Benoît Bounicot, à 19h, donc c'est la reprise. Le repère de la Bassie J'y suis se tiendra, comme d'habitude. Tous les thèmes seront abordés à l'occasion de cette rentrée. Voilà, bon vent à toute l'équipe de Paris et à tous les AMG en cette nouvelle saison qui démarre. Hein, qui démarre bien, espérons. Ciao, ciao.
Oui, bonjour. Le repère de Nevers, dans le 58, est un des derniers nés. C'est un bébé qui a un peu plus de 6 mois. Émilie, tu étais là à la naissance. Et maintenant que tu nous as montré le chemin, nous allons poursuivre, grâce à ton énergie et puis tes convictions. Et le prochain rendez-vous aura lieu ce jeudi à 20h au Copanabor, 5 rue Saint-Didier, le jeudi 13 septembre. Nous y serons tous nombreux.
Bonjour Daniel, heureux de vous entendre à nouveau. J'annonce le repère de ce soir à Bordeaux-Bacalan. Nous avons choisi de parler de l'Espagne et de la crise financière sévère qu'elle traverse aujourd'hui. Nous en discuterons tout à l'heure avec Laurent Béraud et Fernando Tabernero de la librairie espagnole Bordeaux. C'est à 19h au bar de la Marine, 28 bis rue Achard, station de tram Achard. Et comme à chaque fois, on pourra continuer à discuter et débattre ensemble à table après la réunion. Salut! A tout à l'heure.
Le régime belge, si je peux schématiser, est un enfer pour le travailleur et un paradis pour le rentier.
Il y avait le guide du routard, maintenant ça serait le guide du richard.
Le guide du nanti, du non, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas de mot gentil pour dire le riche.
Je suis extrêmement exigeante par rapport au luxe. Je trouve que si les gens payent, ils doivent avoir le service total, complet, que tout doit être parfait. Parce que c'est très gênant. Vous allez sur un terrain de golf, ça n'a pas été calculé par rapport au vent, ou je ne sais pas, ça n'a pas été bien calculé, vous êtes dérangé. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent vivre sereinement, paisiblement, leur fortune.
Être riche, c'est en soi une malédiction. Enfin,
salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Pascal Pascariello et François Latour.
Belgique, terre d'asile.
Terre d'asile. Arriving from...
Attention, point 14, le train ici à destination de Liège 20 à 10h57 est annoncé avec un retard de 10 minutes.
Bonjour, monsieur Lefebvre. Alors expliquez-nous où on est, puisque c'est vous qui avez choisi ce lieu assez symbolique.
Bah écoutez, oui, il est symbolique parce que le Thalys, c'est quand même la liaison Paris-Bruxelles qui se fait maintenant, je crois, en 1h22.
C'est pratique pour les Français qui habitent en Belgique?
Oui, c'est très pratique.
Qu'est-ce qui vous a motivé à partir de France?
Moi, j'ai cédé mon entreprise en 2006. Bon, il y a un petit fond de motivation fiscale, c'est vrai que...
D'accord, parce que lorsqu'on vend une entreprise, il y a beaucoup de Français qui préfèrent partir pour éviter d'avoir...
Taxation des plus-values, si vous voulez. Il y a deux impôts qui n'existent pas en Belgique, les plus-values, et puis il n'y a pas non plus d'impôt sur la fortune. Voilà.
Je vous présente M. Latour, qui vient avec moi à Bruxelles pour justement faire un repérage des lieux. Mmh.
Alors voilà, François Latour est un jeune homme qui va participer à cette émission auprès de Pascal Pascariello. Pourquoi François Latour ? Parce que, vous allez comprendre, c'est un jeune Français qui enseigne aux États-Unis la littérature française et qui cherche comment il pourrait aider son oncle qui... un homme très fortuné, à s'installer en Belgique. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va aller voir les SDF. Oui, les SDF, c'est ainsi qu'on les appelle à Bruxelles, SDF comme sans difficulté financière. Et oui, ils sont de plus en plus nombreux, ces Français qui émigrent, oui, immigrés, mais immigrés, vous voyez quoi quand on dit immigrés ? Mais non, il y a aussi des Français qui quittent leur pays pour aller ailleurs, pour vivre une vie meilleure, et ce sont, en l'occurrence, des gens riches. Des gens très riches, il faut bien le dire, qui en ont beaucoup, et qui en veulent encore plus, et qui surtout ne veulent pas payer l'impôt sur la fortune. Les impôts sur les plus-values, sur le patrimoine, etc. Tous ces impôts n'existant pas ou très très peu chez nos voisins belges. Alors, ils sont quand même assez nombreux, 15 000 à Bruxelles, dans les beaux quartiers évidemment de Bruxelles, des quartiers très très luxueux, domestiques, Ferrari, Porsche, etc. Des appartements de 500, 800, 1000 mètres carrés, où se croisent Darty, Tétinger, Prouvot, Guerlain, etc. Philippe Jaffré, enfin, on ne le croise plus, mais enfin, il y a peu de temps, on le croisait encore. Et voilà, on ne parle pas évidemment des fonctionnaires internationaux qui sont installés à Bruxelles pour des raisons professionnelles. Là, non, on parle de ces Français qui fuient les impôts, qui sont des exilés fiscaux. Et on a voulu en savoir plus sur eux, comment vivent-ils. Car on est en train de vivre un tournant en France. Les riches sont les riches, il y en a depuis longtemps dans notre pays, mais ils ont un problème. Ils ont un problème, c'est qu'ils sont parfois un petit peu critiqués. Mais oui, mais si, allez. Ils sont un petit peu critiqués, il y a même un peu, de temps en temps, des piques un petit peu méchantes sur eux. Or, ils veulent être estimés, et même plus, ils voudraient être aimés. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui jusqu'à 16h dans Là-bas si j'y suis. Bruxelles, terre d'exil.
Professeur de français aux États-Unis.
Voilà. Extraordinaire. Et vous cherchez un appartement ici pour vos parents.
Mes beaux-parents.
C'est bien Bruxelles. Maintenant, la gare est bien, presque bien. Quand je suis arrivée, je vais vous dire, il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Hein. C'était la zone. C'était vraiment la ville de province. Vraiment, ça a changé tout de que les Français arrivent. Ça a mis de la vie, quoi. C'était une ville un peu étate. On aurait cru une ville des années 50. Des très très belles boutiques. Et puis à côté, encore le magasin avec. La vieille qui vend, enfin bon...
C'était autant Bruxelles dormait, alors voilà. Comme dirait Brel.
Alors voilà, on arrive à Bruxelles et on rencontre Anne-Marie Mitterrand. Eh oui, belle-fille de Robert Mitterrand, mariée à Olivier Mitterrand et qui s'est exilée il y a 10 ans à Bruxelles et qui est devenue belge. Elle est belge, Anne-Marie Mitterrand. C'est la passionnariat de la mondialisation. Un personnage haut en couleur et incontournable quand il s'agit de rencontrer les Français riches de Bruxelles.
Et pourquoi vous avez décidé de venir vous installer ici, vous, alors ?
J'ai décidé parce que j'ai supporté Mitterrand, dont je porte le nom, pendant 14 ans. Et quand j'ai vu que de nouveau, il y avait Jospin qui devenait Premier ministre, là, j'ai pas supporté. J'ai dit, je m'en vais, je reste pas. Jospin, ça a été un coup très dur parce que c'était la France que je voyais se perdre. 14 ans de socialisme, d'accord, mais après, je croyais quand même... Donc je me suis dit, les Français vont se rétablir. L'intelligence de Mitterrand n'étant plus là, ils vont comprendre maintenant. Eh ben non, ils n'ont pas compris. Moi, je rentrerai jamais. D'abord, je suis devenue belge. Attendez deux minutes, il faut que je regarde où on va. Le premier. Qu'est-ce que c'est ça ?
Oui, parce que là, aujourd'hui, c'est le guide pratique pour l'installation en Belgique des Français. Hein,
voilà. Alors, le premier qu'on va voir, c'est l'avocat. C'est la première personne qui est importante à voir. J'ai abandonné mes enfants, en quelque sorte. Hein.
Ah bon, vous les avez laissés en France ?
Oui, je les ai laissés en France. Je suis venue toute seule.
Et vous avez quitté votre mari aussi ?
J'ai quitté mon mari, j'ai quitté mes enfants, je suis venue toute seule. Hein.
Tout ça pour des raisons fiscales ?
C'était pour des raisons morales, des raisons politiques. Mon père est mort, m'a laissé un peu d'argent et m'a laissé des immeubles en plus de tout. Alors moi, je continue à payer d'impôts sur la fortune en France. Mais malgré tout, je me suis dit, je l'ai mis à l'abri. Si jamais la France tourne vraiment mal, ce qui pouvait arriver à un socialisme vraiment dur. Donc je suis partie en me disant, au moins, il y aura quelqu'un de la famille qui sera déjà ailleurs. Au début, c'est dur. Moi, j'avais un petit garçon qui avait 12 ans encore. C'était quand même un abandon. C'était un peu pour eux que je l'ai fait, quand même, parce que pour qu'il leur reste quelque chose. Alors,
pour la transmission, pour l'héritage.
Ouais. C'est pas comme les pauvres Russes qui sont partis, qui sont arrivés taxi.
En plus, avec Jospin, on savait pas s'il était encore trotskiste ou complètement socialiste.
C'était quand même assez trouble. On comprenait pas pourquoi est-ce que la France était entièrement socialisante. Je veux dire, quand c'était Zola, je comprends très bien qu'il fallait changer les choses. En fait, il y a une grande vague. En 80, quand Mitterrand est passé, il y a une grande vague de départ. Il y en a eu beaucoup qui sont venus en Belgique, mais surtout en Suisse à ce moment-là. C'était des très, très grosses fortunes. Ouais. Les Roussel, L'Oréal.
Enfin, ils avaient des mots terribles, hein, les socialistes, pour ces gens-là. Ils parlaient d'exilés de la peur.
Oui, oui.
C'était vraiment c'était la haine de classe.
La lutte des classes, la haine, une rage, mais c'était effrayant. Et puis après, il y a eu l'autre vague, c'est après Jospin, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Quand vous avez une petite boîte, que vous montez, vous avez 25-30 ans, vous arrivez à 58-60 ans, à ce moment-là, on vous dit, par ici la bonne soupe, votre travail, monsieur, va récompenser les autres, mais pas vous. Alors vous allez payer 80, 90, jusqu'à 150% d'impôts pour Darty. Hein. C'est indécent. Ça c'est le communisme, ça détruit tout.
Mais il y a des socialistes aussi en Belgique, non ?
Il y a des socialistes, mais alors en Belgique, c'est pas du tout pareil, tout le monde s'entend. Ils n'ont pas la mentalité soviétique. On s'arrange. Et puis, il n'y a pas de lutte des classes en Belgique. Merci. Bonjour. Vous voulez un petit café ?
Non, merci, monseigneur.
Non, c'est beaucoup.
Non, monseigneur.
Merci. Bonjour, cher John. Vous allez bien ?
Très bien, vous-même. Deux,
en France.
Enchanté.
Donc je vous présente John Paramore, qui est mon avocat depuis 10 ans en Belgique.
Ma spécialité, c'est la fiscalité internationale. Donc le sort des Français expatriés est un sujet que je traite particulièrement.
C'est que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des affaires. Moi, je suis professeur de français, de littérature française aux États-Unis. Maintenant, mon beau-père veut que je m'occupe de ses affaires. Ça fait longtemps qu'il me presse, donc je profite du retour. Il m'avait parlé d'un exil fiscal. Il avait évoqué différentes possibilités, dont la Belgique, parce qu'à un moment, c'était très médiatisé. Donc, je vous présente le cas. Il était créateur, fondateur avec son père, enfin, ensemble, mais il a très vite hérité, disons. Une entreprise qui a grosso modo bien marché assez longtemps. On lui a payé son entreprise. Il avait déjà largement investi dans l'immobilier, notamment auparavant, dans des actions aussi. Depuis quelques années, il a une activité, il a 71 ans. Hein. Mmh.
Il a une activité qui est, qui est mineure, quoi. Enfin, vous savez comment c'est. C'est des gens qui ont été toujours habitués à agir, quoi. Et donc, il a du mal à déléguer, notamment toute la gestion de son immobilier, quoi. Donc, ça lui fait du tourisme aussi, puisqu'il en a un peu partout en France. Mais là, ce qu'il pense, c'est surtout, il commence à penser à la transmission. C'est surtout ça, quoi.
Ah, si vous souhaitez échapper à l'impôt successoral, il faut d'abord transférer sa résidence dans un pays qui va permettre d'échapper en tout ou en partie à l'impôt successoral. La Belgique a mis en place des régimes qui permettent d'y échapper avec une facilité assez déconcertante. Schématiquement, pour échapper à l'impôt successoral, il faut se dépouiller de son vivant par des donations. Donc c'est très simple d'échapper à l'impôt successoral en Belgique.
D'accord. Et déjà, bon, il lui reste quand même du patrimoine mobilier. Ça représente pour lui, il a évalué à 6 ou 7 millions d'euros. C'est possible de le faire par donation une fois qu'on est installé en Belgique, en fait ?
Tout à fait, sans impôt.
Sans impôt, du tout ? Ah, c'est quand même exceptionnel, ça.
Tout le monde est quand même épaté de voir qu'à Bruxelles, on essaye d'aider les gens à transmettre leur argent sans impôt.
Alors, pour qu'il lègue à ses enfants, il faut que ses enfants soient également résidents en Belgique ou bien...
Non. C'est la résidence du futur défunt qui compte. Le régime belge, si je peux schématiser, est un enfer pour le travailleur et un paradis pour le rentier. Parce que la taxation directe sur les revenus du travail est extrêmement lourde en Belgique. Si vous gagnez 40 000 euros par an, vous allez être taxé à 50%. Ce qui est nettement plus qu'en France.
Il faut faire sa fortune en France. Une fois que fortune est faite, une fois qu'on a bien travaillé
Exactement.
En France, arriver en Belgique pour s'y réfugier et léguer son patrimoine sans difficulté.
Tout à fait. Exactement.
Et les travailleurs belges, ils disent rien de ça ?
Le travailleur belge est résigné. C'est la triste réalité de la Belgique.
La triste, vous le regrettez alors ?
Moi, je travaille, donc...
Le pays pour les paresseux. c'est bizarre, mais c'est comme ça.
Une des principales mesures à prendre, ce serait d'arrêter l'ISF.
Oui, c'est un impôt tout à fait, à mes yeux, tout à fait anachronique, particulièrement inique et scandaleux. Je veux dire, globalement, dans tous les pays européens, on est quasiment à 50% du produit national qui passe en impôt. Historiquement, même l'esclave payait moins. Quand on connaît également les abus qu'on peut constater du côté d'une autre tranche de la population, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne ou n'importe où.
Les assistés. Enfin, je pense que vous pensez aux assistés, bien sûr. Ceci, dans ma famille, il y a des désœuvrés professionnels et qui gagnent très bien leur vie aussi.
C'est la paresse, ça. La paresse, c'est la mère de tous les vices.
Naître riche, c'est en soi une malédiction. Enfin, non. Les enfants de riches doivent se faire leur vie eux-mêmes, sinon ils seront malheureux toute leur vie.
On a vu dans la presse, il y a des noms qui reviennent. Il y a Philippe Jaffré, donc Monsieur Elf, Aquitaine, Monsieur Mullier d'Auchan, Monsieur Darty. Il y a des noms comme ça de fortune qui reviennent, qui ont fait leur fortune en France finalement, et qui viennent ensuite de l'expatrier. Enfin, quand vous en discutez avec eux, moralement, il y a cette question-là qui se pose aussi pour mon beau-père, moralement, comment ils le vivent, quoi.
On quitte sa patrie, on abandonne, on les lâche. Alors moi, je me souviens quand je suis arrivée ici, je disais à ma copine, elle avait beaucoup d'argent, et je lui disais, mais oh, j'ai l'impression qu'on est comme les rats, on est comme des rats. Elle me dit, mais non, t'es pas un rat, t'en fais pas, t'es pas un rat.
Alors je vois des messages qui arrivent, des auditeurs qui disent « Mais quel est l'auteur de cette sitcom ? Quel est l'auteur de ces sketchs ?» C'est pas du tout sketch, sitcom, etc. C'est la vérité. Nous sommes à Bruxelles et nous sommes avec ces Français riches qui se sont exilés, des exilés fiscaux. Alors là, on a des éclairages, évidemment. Naître riche, c'est une malédiction. Etc., etc., un enfer pour l'ouvrier, un paradis pour le rentier, ainsi se présente la Belgique. On va quand même essayer d'éclairer les choses un petit peu différemment pour un instant, avec Christian Chavagneux, qui est un économiste, auteur de « Les paradis fiscaux », aux éditions de La Découverte et qui, par ailleurs, est rédacteur en chef adjoint au mensuel Alternative économique. Christian Chavagneux.
En Belgique, on m'a parlé de la famille des Mulliez, d'Arty, d'Étinger les Champagnes. Ça fait beaucoup de grandes fortunes qui se retrouvent là-bas.
Il y a à peu près deux grandes fortunes par jour, qui quittent la France pour des raisons d'imposition fiscale. Il y a à peu près 450 000 personnes qui payent l'ISF aujourd'hui en France. On peut supposer vraiment un minima qu'il y en a au moins 450 000 qui ont les revenus suffisants pour payer l'ISF, mais qui, bien conseillé, ne le paye pas. Ça fait à peu près 900 000 personnes à minima. Ce qui veut dire que quand il y a deux personnes qui partent, il y en a à peu près 2500 qui restent en France. Donc, on peut très bien avoir de très hauts revenus en France et rester. Les quelques personnes qui partent à l'étranger, cela renvoie vraiment, à mon sens, à des stratégies individualistes d'évitement de l'impôt en dehors de la France.
Et qu'est-ce que ça peut représenter donc, comme perte ?
3% du PIB français. 3% du PIB français qui part en fraude fiscale, ça veut dire à peu près, c'est l'ensemble de l'impôt sur le revenu. C'est beaucoup, et on s'aperçoit que c'est d'autant plus important que l'ensemble des patrons des fiscs des grands pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays riches, se sont réunis en septembre 2006 à Séoul, disant que l'OCDE est en train de constituer une sorte d'annuaire de ces conseillers fiscaux juridiques qui aident trop, à leur sens, les multinationales et les gens riches à échapper à l'impôt. Et l'OCDE a dit qu'elle allait vraiment leur tomber dessus, avec un langage vraiment pas du tout diplomatique, très très violent. Les États ont décidé de réagir.
Parce qu'ils ont peut-être trop perdu d'argent. C'est comme à un moment donné, quand on privilégie un peu les meilleurs de la classe, mais quand ils prennent trop d'aisance, on leur dit « bon, faudrait quand même que vous n'oubliez pas les règles ».
Exactement. C'est la jolie métaphore, j'y souscris. Les montants perdus de recettes fiscales sont tellement élevés aujourd'hui que ça vaut vraiment la peine pour les États de se mobiliser et d'être moins conciliants avec les entreprises et avec les gens riches.
Bonjour. Merci. Excusez-nous du retard. Hein.
Bonjour.
Engel & Völker, c'est quand même une société qui fonctionne dans le monde entier. On a un système de farming, de revolving, où on distribue, on lance pas mal de projets marketing. Donc on a vraiment ce réseau international qui existe, il est réel.
Alors, voilà. Vous avez compris, nous sommes dans l'agence immobilière Engel et Völker, avec toujours ce jeune homme, François Latour, je le rappelle, professeur de français aux États-Unis, qui s'occupe des affaires de son beau-père, un industriel, qui veut voir les possibilités de s'installer à Bruxelles. La question immobilière, maintenant.
C'est vrai que les Belges sont très sympas, mais en voiture, c'est terrible. Moi qui roule très doucement, alors ne soyez pas choqués. Je suis très stressée en voiture.
Vous travaillez quasiment que pour des Français, là, sur l'agence?
Moi, je suis dans le quartier des Français, place Brugmann, avenue Le Poutre. Il y a quand même encore... J'ai encore deux couples français qui sont venus la semaine dernière. Là, c'est vraiment clairement pour des raisons fiscales, puisqu'ils veulent s'installer avant fin novembre. Ils hésitent entre la Suisse et la Belgique. Ils sont très exigeants. Vraiment. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec.
C'est-à-dire ?
Ils veulent une belle maison avec un beau jardin, avec rien à faire dedans, à un prix défiant toute concurrence. Se préoccuper de rien, aucun travaux. Il y en a qui ne savent pas encore s'ils veulent être en Belgique ou en Suisse. Et ici, il y a vraiment quelque chose, quoi.
C'est le supplément d'art.
Exactement.
Maintenant, ce qu'on recherche dans la ville, c'est beaucoup de suppléments d'art.
Exactement. Non, mais ici, c'est très riche culturellement. Il se passe plein de trucs. Donc, ça, c'est bien.
Merci.
Cette maison a une particularité, c'est vraiment son jardin. On va avoir pour 2 millions d'euros. Ça a été refait. Les propriétaires sont partis vivre aux États-Unis, je crois. On va profiter du jardin, il fait beau. Donc voilà ce beau jardin. Mais c'est, on n'est pas loin, quoi. C'est vraiment, on est, c'est les, on va dire la banlieue chic de Paris pour moi, Bruxelles. À 1h15 en Thalys, c'est quand même rien, quoi. C'est super en même temps.
En même temps, la pauvreté en Belgique est assez importante, apparemment. Enfin, je...
Il y a des quartiers.
Il y a des quartiers.
Oui, il y a des quartiers. Mais je ne sais pas si vous avez vu, quand vous arrivez de la gare, vous êtes arrivé en Thalys.
Oui.
Ouais. Il y a toute cette avenue où il y a pas mal de Marocains, d'Algériens qui habitent là. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hôtels de maîtres abandonnés, quoi. Et des belles façades.
C'est dommage.
Ouais, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi. On a l'impression d'être dans un autre monde.
Ah oui.
Vraiment. On a l'impression d'être au Maroc, quoi. C'est pas du tout du racisme, hein. C'est vraiment un changement de vie, quoi. Et tout de suite, vous voyez, il y a plein de petits magasins, plein de petits primeurs. Alors, Bruxelles est tout petit. C'est un petit village. Tout le monde se connaît. Il y a des grandes familles. Ils sont tous cousins-cousines.
Tout le monde se marie entre soi.
Oui. Ça me fait penser un petit peu au Dom-Tom, la Martinique, avec les béquets. C'est 1% de la population, mais... On a l'impression qu'ils ont l'île, quoi.
Virginie, t'es âgée, vous le voyez à quelle heure?
Ah, mais on la voit pas.
Ouais, c'est exactement elle. Non, mais archi occupée toute la journée et ne fait rien. Manucure, coiffure, tout. Mais ça occupe un temps fou. Mais les gens, quand ils ont rien à faire, il faut bien qu'ils s'occupent de leur journée. Ils prennent des rendez-vous chez le médecin, histoire de s'occuper. C'est pas malade. Le psychologue, le dermatologue, le réflexologue. Pour faire les bons gestes que tu fous. Les Françaises belges et les Belges enfin, se mélangent pas mal dans l'art. Les gens ont des statues dans leur jardin. On fait en même temps la visite du jardin et des statues. Et non, l'art, c'est un truc qui marche en Belgique.
Des riches décomplexés à Bruxelles, des riches heureux, des exilés fiscaux, ces Français qui s'installent à Bruxelles pour fuir le fisc français. Et, je le disais en commençant, ces riches, plus riches que riches, veulent être estimés. Et pour être estimés, il faut commencer par s'estimer soi-même. Et pour s'estimer soi-même, il y a un moyen ancien quand on est riche, quand on est une personne de pouvoir, eh bien, c'est l'art. Il y a une vieille relation entre l'art et le pouvoir, entre l'art et l'argent, qui a été depuis longtemps analysée comme moyen de la distinction, comme moyen du placement. Il y a une spéculation, évidemment. Il y a la mondanité. Et ça, c'est très important, ce qu'on appelle les mondanités, c'est-à-dire tous ces liens, ce réseau qui s'installe, si précieux, soit pour parvenir à la fortune, soit surtout pour la conserver. Mais il y a aussi la purification, c'est-à-dire l'argent, c'est sale, enfin, sans faire de freudisme, on se souvient à quoi Freud comparait l'argent. Donc, il faut purifier, il faut aller vers quelque chose de désintéressé, un peu quelque chose qui élève, très très proche du sacré, du religieux, eh bien c'est l'art. D'où une pratique extrêmement courante, on vient de le dire, dans cette bonne ville de Bruxelles, si tendre aux riches français.
Eh bien, je crois qu'il y a vraiment un nouvel élan et un nouvel, élan de... Attends, je peux recommencer? Tu recommences la question ou pas? Non. Voilà, donc je m'appelle Grégoire Vogelsang, j'ai 22 ans, je m'occupe maintenant pleinement de la galerie Envidart à Bruxelles. Et c'est vrai qu'un concept comme Envidart a pleinement sa place dans une capitale culturelle aussi cosmopolite que Bruxelles.
Mais vous savez que de l'autre côté, en France, on se dit, bon, déjà il y a les exilés fiscaux à Bruxelles, et en plus du coup, il y a les collectionneurs, parce que l'un va avec l'autre.
Oui, vous vous dites ça, et quelle est la question?
C'est vrai, est-ce que vous confirmez ce fait-là
que... Ah oui, mais alors est-ce que je confirme? Mais je crois que c'est les chiffres qui confirment, effectivement, il y a 100 000 Français en Belgique. Maintenant, je crois que c'est une nouvelle génération de consommateurs d'art qui se crée. Fabio, s'il te plaît.
On va attendre que votre ami vous prenne en photo. Et une dernière question, on appelle cette galerie le magasin?
Pourquoi pas, finalement? Puisque je crois que avant tout, ce que nous voulons, c'est désacraliser l'idée qu'ont les gens d'acheter de l'art. Notre philosophie, c'est de dire, tiens, voilà, on va chez Envidart pour Peut-être parce qu'on s'y sent bien, mais peut-être simplement pour acheter. Et voilà, et je crois que c'est avant tout ça le but premier du concept.
Merci beaucoup.
Ça allait ?
Oui.
C'était parfait. C'était absolument parfait.
La piscine dans laquelle il prenait ses cours de natation est devenue un musée magnifique. Le conservateur l'accompagne. C'est un des plus émouvants musées français car on y trouve un mélange irremplaçable d'œuvres d'art et le parfum de ce que pouvait être il y a des années un bâtiment où nageaient ensemble les ouvriers et les bourgeois de la région. Dans le Nord, beaucoup plus qu'à Paris, on sait qui est Bernard Arnault. Il incarne finalement assez bien les valeurs de la région, comme la continuité dans l'effort.
Bernard Arnault, L'enfance est un destin, un film de Gilles Demestre, commentaire de Guillaume Durand, 2011.
Dior, j'adore.
S'il existe une phrase, une seule phrase pour le définir, elle est peut-être de Pierre Godet qui l'accompagne depuis des années dans cette aventure et qui a trouvé cette formule. Bernard Arnault n'est pas un artiste de l'inutile. Ce secret réside dans son éducation. Étienne et Maminette, les grands-parents pauvres venus d'Auvergne, ses parents, évidemment à Roubaix, et le regard de son père qui le poursuit. Rilke avait raison, pour certains l'enfance est un destin.
C'est bon ?
Allez, alors donc là, Anne-Marie, hein, vous avez accepté de nous guider pour une installation à Bruxelles. Donc c'est quoi ? C'est le guide de l'installation à Bruxelles ?
C'est le guide du riche quand même. C'est pas pour les pauvres là. Le guide du nanti, du non. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il n'y a pas de mot gentil pour dire le riche.
Maintenant, on invente des mots qui sont pas mal. Par exemple, le guide du créateur de richesse. C'est déjà, on a presque le sentiment que là, le riche, c'est pas passif, c'est actif.
C'est actif, il fait quelque chose.
Et il y a un côté artiste, créatif, vous voyez ? Je pense que là, on arrive à redonner ces lettres de noblesse
à l'argent.
À l'argent.
C'est pas mal. C'est pas mal.
Et je pense que c'est pas un hasard si ce terme est apparu dans les années 80-90, où on remettait en valeur un peu, on cessait quand même de diaboliser. Je sais pas ce que vous en pensez, madame.
Ah ouais, bah, pareil que vous.
Mais oui, cessons de diaboliser les riches, c'est dit avec tellement de mépris. Changeons, évoluons, permettons à nos amis les riches d'être décomplexés, de se décomplexer et de sortir, pourquoi pas, de leur ghetto. Ghetto du Gotha, en voilà un ghetto du Gotha à Bruxelles.
Pour avoir la foi, il faut être charbonnier, pour être mal chaussé, il faut être cordonnier, pour séduire la foule, faut chanter la pêche au moule, et pour paper la peau, il faut naître à Monaco. Et c'est comme ça, on y soit qui mal y pense, faut souffrir en silence. Ça sert à quoi de vouloir quitter la France quand on est auvergnat? On peut pas tout à la fois siffler l'apéro et l'opéra. On peut pas, c'est évident, payer content quand on n'est pas content et réciproquement. Faut manger des épinards, pour se lever tôt, il faut pas se coucher tard. Quand on est costaud, faut se mettre un beau costard, et pour paper la peau, il faut naître à Monaco. Et c'est comme ça, comme disait La Fontaine, Mironton, Mirontaine. Ça sert à quoi de vouloir quitter la scène quand on ne vous retient pas? On peut pas tout à la fois siffler l'apéro et l'opéra. On peut pas, c'est évident, payer quand on n'est pas content et réciproquement.
Donc ici, c'est le Cercle de Lorraine, qui est l'ancien château du président Mobutu, ici à Bruxelles, et qu'il a habité 2-3 mois par an quand il vivait en Belgique, donc, et quand il venait en Belgique chaque année. Mobutu savait choisir les beaux endroits, comme on dit. Le citoyen président fondateur avait bon goût, avait un goût certain.
Bonjour. Vicomte, monsieur Young.
De Jong, D-E-J-O-N-G-H-E, De Jong.
De Jong d'Ardoit d'Elbe.
Voilà.
Alors je vous raisonne, monsieur Latour, son beau-père veut s'installer à Bruxelles.
Il a raison.
mais c'est pas...
La majorité des Français qui s'installent à Bruxelles aujourd'hui viennent pour des raisons de qualité de vie et surtout qu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune et il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Et donc, il y en a certains, ça peut leur faire gagner 1 000, 2 000, 3 000 euros par jour. Hein. Pas par an, mais par jour.
Sur le plan fiscal, moi j'ai bien compris que c'était très avantageux. Donc, maintenant, l'inquiétude moi, pour mes beaux-parents, qui lui étant assez âgé, il a quand même 71 ans, c'est est-ce que là, vous voyez, les membres du Rotary, il est sponsor du club de foot à Amiens.
Local,
ouais. Vous connaissez un peu tout ça. Bon, le milieu des notables quoi, de province, c'est est-ce qu'il va réussir à se créer ce tissu social rapidement sur Bruxelles quoi.
Il y a quelques endroits où il faut être membre. Pour entrer au Cercle de Lorraine, il faut être parrainé. La cotisation est de 1200 euros par an. Le critère d'attribution, c'est ce que vous avez fait dans votre vie ou ce que vous faites dans la vie, l'importance de votre situation, de votre business, de votre carnet d'adresse. C'est surtout ça, enfin.
Et alors, comment vous évaluez ça, quoi ?
Bon, qu'est-ce que vous voulez de nos jours ? Vous voyez le nom de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous allez sur Internet et vous avez tous les détails et donc vous savez très bien si le type c'est l'épicier du coin ou si c'est un chef d'entreprise. Enfin, c'est pas chinois, c'est pas compliqué.
Les occasions de rencontre, alors, c'est autour de quel thème ?
Il n'y a pas de thème précis. Il y a dégustation de cigares. La semaine dernière, il y avait un déjeuner-conférence avec le gouverneur de la Banque de France des missions économiques. Ils ont fait il n'y a pas longtemps une mission économique au Congo où ils ont été reçus par le président Kabila. Non, il y a des tas d'activités, mais ça fonctionne bien, ça tourne bien.
Et là, il y a beaucoup de Français dans le club de Lorraine maintenant ou...
Je ne pourrais pas dire en nombre exactement parce que certains de ces Français, c'est assez amusant, ne souhaitent pas être dans l'annuaire des membres.
Vous êtes maire d'Ixelles également ?
J'ai été maire d'Ixelles, je suis maire adjoint maintenant.
D'accord.
Il y a 7 000 Français sur 77 000 habitants à Ixelles. Depuis 10 ans, et ça n'arrête pas. Hein. Oh ! Voilà ma maîtresse.
Bonjour Anne-Marie.
Bonjour. Peut-être pas pour la radio.
Voilà ma maîtresse, Anne-Marie Mitterrand.
Méfiez-vous.
Il n'y a pas de photo. Hein.
On a voulu faire des enfants ensemble, mais malheureusement, elle n'a pas voulu.
C'est mon copain.
Au revoir, mon amour.
Au revoir, mon chéri.
Elle a dit mon chéri, hein, vous avez entendu.
C'est lui qui m'a accueilli quand je suis arrivée hein,
non, parce qu'on
à Ixelles, il y a 10 ans.
C'est
monsieur Yves de Jong qui m'a accueilli il y a 10 ans.
Elle est venue me voir et quand je l'ai vue dans mon bureau, j'ai senti une émotion certaine ou une certaine émotion. J'ai senti certaines raideurs et je n'ai plus pu me passer d'elle.
Mais qu'est-ce qu'il raconte ?
Voilà, la bonne humeur, l'esprit bengalois, il faut bien le dire. Mais on est pourtant à Bruxelles, au Cercle de Lorraine, où vous voyez, on découvre du beau monde qui connaît du beau monde, du linge, etc. Voilà, toutes ces expressions prennent corps sous vos oreilles, amis auditeurs. Et là, on va rencontrer Monsieur Tajan, Jacques Tajan, qui est membre du Cercle de Lorraine, qui est ancien commissaire-priseur et qui a vendu son étude à Bernard Arnault et depuis qui s'est installé. On a rencontré quelques petits problèmes avec la justice française, mais on n'en parlera pas. Et putain, on va leur dire non. Et puis, eh ben, il s'est exilé là et il nous attend.
Il y a une société tout à fait extraordinaire qui a été créée à Bruxelles, 228 avenue Louise, qui s'appelle le 7. Il prend en charge les migrants. S'il y a des enfants inscrits à l'école, inscrits, on immatricule ses voitures, on lui trouve un logement. On fait tout. Il ne s'occupe plus de rien. On l'amène pour avoir sa carte de séjour, etc. Donc ne bricolez pas comme ça. Adressez-vous à une société compétente. Le 7, et c'est tout à fait remarquable, avec des gens qui vous conseillent pour la banque, pour le notariat, pour la fiscalité. Alors, adressez-vous à des spécialistes. Le 7, c'est ce qu'on appelle un family office.
Ça, c'est l'expatriation clé en main, un peu.
Exactement. D'où que vous soyez, d'ailleurs, ce n'est pas réservé aux Français, puisqu'il s'avère que même cette société est en train de traiter deux clients suisses qui viennent vivre en Belgique. C'est vous dire si la Belgique est attrayante, n'est-ce pas ? Évidemment, il y a des Français qui vont se faire coiffer à Paris parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de coiffeur à Bruxelles. Il y a des Français qui vont se faire soigner les dents. Il y a des Français pour qui tout est un prétexte. Ceux-là sont malheureux. Je les plains beaucoup. Mon métier est un métier de connaissance des objets d'art. J'ai vendu des objets d'Extrême-Orient, des objets islamiques, des objets italiens, anglais, allemands, etc. Donc ma curiosité est une curiosité, cosmopolite. Ah oui, mon épouse est japonaise, au lieu de vous dire, qui est une fille remarquable, qui a fait une thèse, doctorat, une thèse sur Jules Michelet. Et voilà, elle m'a donné une fille, Nagisa, qui a 20 ans, qui rentre en quatrième année d'architecture, qui est donc un mélange, voilà, du japonais, de l'Asie. Donc moi, je suis assez ouvert, finalement, au monde. Et je trouve sympathique que les Belges soient comme ça.
Ce que je vois, c'est que, bon, par rapport à mon beau-père, c'est... deux mondes de la bourgeoisie différents, ce que vous décrivez. Vous, c'est la bourgeoisie plus contemporaine, ouverte au monde, cosmopolite. Il est plus ancré dans sa localité. C'est un notable local, vous voyez.
Le profil de votre beau-père, il est ici représenté, alors typiquement, par M. Bernard Darty. Hein, ce n'est pas un secret de le dire, tout le monde sait qu'il habite à Bruxelles. Et je vous assure qu'il s'est intégré formidablement, que tout le monde le connaît, etc. Qu'il n'ait pas d'inquiétude.
Bon, allez, on va déjeuner.
On va déjeuner. Monsieur Latour ?
Bon, alors ici, nous sommes dans le salon. Je vous explique un peu. Vous voyez, vous avez autour de vous un décor africain. C'était la salle à manger de Monsieur Mobutu. Donc ici, vous voyez dans cette salle, par exemple, vous avez autour de vous tous les grands épisodes de la vie de Mobutu. Voilà. Alors vous avez une grande photo. Il a son chapeau traditionnel en peau de léopard. Et puis, vous avez un miroir qui est fait de cornes de zébu ou je ne sais quoi, et vous avez tout le décor, les tissus, tout, et on a voulu reconstituer l'Afrique.
Les tissus sont des tissus zébrés. Hein.
Ce n'est pas du zèbre. Là. Et puis comme moi j'ai fait la fondation Brigitte Bardot, il est bien évident que si ça avait été des vraies peaux de zèbre, je ne serais pas venu. Voilà.
Stupidité invraisemblable. Parce que moi, par exemple, il y a des idées de gauche pour lesquelles je suis 100%, et il y a des idées de droite pour lesquelles je suis 100%. Non, oui. Par exemple, je suis tout à fait contre la peine de mort. Donc, je veux dire, je trouve ça tellement réducteur.
Par exemple, enfin,
réducteur, c'est vraiment.
C'est un problème de société, c'est absolument vrai.
C'est juste parce que les gens. Oui.
Qui n'existe pas en Belgique, pas de gauche et droite en Belgique.
Pas de sectarisme.
Mais
voilà.
Non,
en Belgique, c'est très, très mélangé. Alors,
puisque nous sommes à Bruxelles, parlons de la construction de l'Europe. Mitterrand a joué un rôle déterminant, très important dans la construction de l'Europe. C'était un Européen convaincu.
La table ici à côté, sans être indiscrète, c'est donc mon amie Amélie Outremont qui est là. Je pense que les deux personnes qui sont en face sont deux Français, parce que la dame vient de dire. Et quelle est la différence fiscale entre la France et la Belgique, etc. etc.
Donc, je vous leur donner questions. Le 7-228 avenue Louise.
Oui. Je le dirai à Amélie.
En fait, avoir de l'argent implique une charge morale qui embête un peu les gens de temps en temps. Hein. Et vous aussi, vous préférez être professeur tranquille que d'avoir ce gros poids qui est quand même de gérer au mieux, de se donner du mal. Et pour garder son argent, il faut beaucoup travailler. Moi qui ai vécu toujours dans des grands appartements, avec des tas de choses et de l'argent. Ici, j'ai rien. Mais c'est assez agréable. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est assez agréable.
La légèreté du vide.
Ah, mais c'est pas si mal. Faut pas croire. Il y a du bon. Cette espèce de responsabilité. Bon, moi, je n'ai pas gagné mon argent. Peut-être qu'on l'a moins quand on gagne sa vie. Peut-être que c'est moins. Mais cette responsabilité de l'argent qu'on vous a donné, c'est. Je ne m'en plains pas. Mais ça aura été une responsabilité qui m'aura pesé toute ma vie. Enfin, je veux dire, j'aurais fait attention toute ma vie. J'estime.
C'est pour ça que vous êtes exilé, d'ailleurs.
Je ferai tout pour respecter ce que m'ont donné mon père, mon grand-père, mon grand-père. Moi, je me rappelle, mes enfants, je leur ai jamais acheté un truc sans le comparer le prix de leur achat avec le SMIG. Ça coûte très très cher, ces machins jeunes, là. C'est du délire, le jean à 920.
Qu'est-ce qu'il m'en reste ? À 900 euros ?
C'est 900 euros, le jean ? C'est 1000 euros, le jean, non ? Non. Disons, un jean normal, 300 euros. Et moi, je leur disais, mais attendez, vous savez que le SMIG était à 950, donc vous portez un machin sur vous qui coûte un tiers du SMIG. Enfin, je veux dire, l'impôt sur la fortune est devenu trop cher, quoi. parce que le riche doit payer des impôts, que c'est son rôle. Donc je suis d'accord pour payer des impôts. Maintenant, il s'agit quand même de le laisser respirer. Là où on était très riche, c'était en 1830. Ça fait longtemps.
À la Restauration, alors après la Restauration...
Mon arrière-grand-père avait fait fortune en 1830 et depuis, on vit un peu dessus quand même. Hein. Mais il y en a de moins en moins. Hein. Voilà, alors là, on descend vers les étangs.
Une louche de caviar sous un cornet de frites, c'était un reportage de Pascal Pascariello accompagné du mystérieux François Latour que vous aviez déjà entendu en septembre 2007. En partie, vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La technique aujourd'hui, Éric Morin et Michel Bézikian. C'est Antoine Chao qui a assuré le montage de cette émission. Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez, assistés de Pierre Bulteau, ont réalisé cette émission. Solène Cordy, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Et puis une précision, vendredi à 15h, nous serons en direct depuis la fête de l'humanité avec les licenciels, les licenciels. C'est les femmes qui font beaucoup parler d'elles. Et puis Jean-Luc Mélenchon. Et puis nous parlerons des législations possibles, des lois possibles contre les licenciements. Ce sera notre thème pour ce début de la fête de l'humanité vendredi prochain. Il n'y a pas de réclame aujourd'hui. Si, il y a réclame. Alors réclame.
France Inter, l'Odéon Théâtre de l'Europe et le Festival d'automne à Paris présentent du 14 au 21 septembre Glaube, Liebe, Hoffnung, Foi, Amour, Espérance, de Dön von Horvath, mise en scène par Christophe Marthaler aux Ateliers Berthier. Marthaler déploie ici une pluie de trouvailles bizarres, énigmatiques, poétiques, un tohu-bohu de figures typiquement horvatiennes, une fantaisie scénique débordante. Retrouvez Foi, Amour, Espérance dans les émissions de France Inter.
France Inter, partenaire de la Fête de l'Humanité, les 14, 15 et 16 septembre à La Courneuve. Le rendez-vous incontournable de la rentrée avec plus de 80 pays représentés, une cinquantaine de concerts et une centaine de débats sur 3 jours qui en font la plus grande fête populaire de France. Et retrouvez le vendredi 14 septembre la Marche de l'Histoire de Jean Lebrun en direct et en public du studio Radio France à partir de 13h30. Renseignements sur franceinter.fr.
Je vous ai parlé de vendredi, on sera à la fête de l'UMA et personnellement je serai samedi à 18h sur le stand des Amis de l'Humanité pour parler des États-Unis et de Howard Zinn. Il est 16h sur France Inter, on se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis. Si tout se passe bien, on recevra Shlomo Sand pour son nouveau livre « Comment la terre d'Israël fut inventée, de la terre sainte à la mère patrie », probablement une émission qui fera quelques bruits, j'espère, à nouveau. Il est 16h et bientôt une minute sur Inter, à demain 15h, donc je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Barack Obama va s'exprimer d'ici une demi-heure de la Maison-Blanche. Le président américain, pour l'occasion, sera aux côtés de sa secrétaire d'État, Hillary Clinton. Une intervention exceptionnelle qui fait suite à la mort hier soir de l'ambassadeur des États-Unis en Libye et de 3 diplomates américains. Déjà ce matin, le président américain a condamné l'attaque contre le consulat de Benghazi à l'origine de la mort des 4 américains, des manifestants qui protestaient contre le film de l'israélo-américain Sam Basile, un film hostile à l'islam, ont lancé des roquettes et des bombes artisanales. Ce film fait d'ailleurs l'objet depuis hier de manifestations un peu partout dans le monde arabo-musulman. Il y en a encore aujourd'hui au Caire, en Égypte, en Tunisie. De son côté, le gouvernement afghan indique avoir bloqué le site YouTube dans le pays pour empêcher le visionnage du film. Cet après-midi, l'ensemble de la communauté internationale a condamné la mort des 4 diplomates américains. De son côté, le président libyen par intérim s'est excusé auprès des États-Unis. Mohamed El Megarif a qualifié cette attaque de lâche. Par ailleurs, on vient d'apprendre que les États-Unis vont déployer sur place une équipe de Marines spécialisés dans la lutte antiterroriste. En France, les 7 policiers de Vénissieux interpellés hier matin sont toujours en garde à vue cet après-midi. Ils sont interrogés dans le cadre d'une enquête pour des faits de corruption. Des faits qui n'ont rien à voir avec la précédente affaire Nereff, à savoir le parquet de Lyon. Selon le procureur de Lyon, ces 7 hommes pourraient être déférés demain au parquet pour y être mis en examen. Dominique de Villepin hier, Xavier Darcos aujourd'hui, l'ancien ministre de l'Éducation sous Nicolas Sarkozy, est entendu cet après-midi à titre de témoin dans l'affaire d'escroquerie présumée des relais et châteaux. Le chef Joël Robuchon a lui été entendu ce matin. La direction de Sud-Ouest dément cet après-midi l'information selon laquelle le groupe de presse préparait un plan social. Certes, un plan d'économie est en préparation, mais il n'y aura aucun plan social, dit la direction. Et le nombre de départs annoncés, 250 en l'occurrence, est hors de propos. L'information était parue dans la lettre A, un hebdomadaire d'information confidentielle et relayée par l'agence France-Presse qui ne cite pas sa source. La France va mettre un frein aux biocarburants de première génération. Selon le ministère de l'Agriculture aujourd'hui, il s'agit de mettre un terme à la volatilité des prix des matières premières qui pèsent actuellement sur les éleveurs. Le suicide d'un fonctionnaire du rectorat de Rennes. Ce matin, il s'est défenestré. Le rectorat a mis en place une cellule d'aide psychologique d'urgence pour le personnel. Enfin, une adolescente de 13 ans est entendue aujourd'hui par la police de Fécamp, en Seine-Maritime. Elle est soupçonnée d'avoir passé plus d'un millier de coups de fil à police secours en 2 mois. Et ce, sans raison particulière. Elle a évoqué devant les policiers une forme de jeu. Elle sera prochainement convoquée par un juge. Ses parents, eux, lui ont retiré son portable. C'est le moins. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Ouvert la nuit.
On vous livre notre nouvelle recette.
Alexandre Hérault.
Tout d'abord, il y a notre invité.
Vous l'adulerez, vous ne connaîtrez que lui.
Aurélie Sfez.
Parfois, il ne sera pas connu, il faudra le reconnaître.
Bonjour.
Bonjour.
Une première heure exclusivement musicale, Aurélie Sfez, car à nos côtés sera présent un autre groupe à découvrir.
Et dans la seconde heure, Alexandre, la petite bande recevra qui ?
Un autre invité, faisant la scène culturelle du moment, et vos nuits s'ouvriront ainsi, car...
De toute façon, pour y voir clair, il faut rester ouvert la nuit.
Ouvert la nuit. Tous les soirs, à partir de 21h.
Mais pour l'instant, sur France Inter, c'est bien. Je reste à vous, Frédéric L'Odéon.
Merci beaucoup, Laetitia Gaillet.
Carrefour de l'Odéon, avec le Festival d'Île-de-France. 29 concerts en septembre et octobre, dans 26 lieux du patrimoine francilien.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, vous l'avez entendu, nous sommes parrainés par le Festival d'Île-de-France, donc plein de concerts en 26 lieux jusqu'au 14 octobre, et nous allons tendre évidemment la main à ce festival qui nous aime bien en parlant des programmes. Le thème principal, c'est la diaspora en général, les diasporas, musiques en partance, donc tous ces artistes qui sont partis de leur pays, en général pour chasser, en général obligés de se réfugier ailleurs, et par exemple, vendredi qui vient, le 14 septembre, il y aura Yom. Yom, c'est un clarinettiste fameux et il va suivre quelques bons moments, des étapes de Pantin à Paris, le long du canal de l'Ourcq, avec une première étape à la Dynamo de banlieue bleue à Pantin, c'est 9 rue Gabriel Josserand, et là il y aura les clarinettes de Yom, il y aura Farid D qui jouera du violoncelle oriental, la contrebasse, des percussions iraniennes. Après il y aura une déambulation de Pantin à Paris avec une fanfare Kletzmer. Alors, Kletzmer, ce sont les musiciens juifs des petits villages d'Europe de l'Est. Et il y aura l'orchestre d'harmonie de la Courneuve. Et puis, on va finir au cabaret Sauvage, troisième étape. Donc, Yom sera avec The Wonder Rabbits. Ce sera 59 boulevard McDonald à Paris, dans le 19e. Il y aura basse, batterie, clavier aussi. Voilà, un bon petit cheminement. Yom d'Est en Ouest. Et c'est vendredi qui vient. Un moment certainement très vivant, très coloré, très instructif aussi. Voici de Nat Fool Brandwine. Où étais-tu avant la prohibition ?